Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Emma nous demande énormément de temps, d'attention. Finalement, on n'a plus fait de notre couple une priorité.
Est-ce qu'on va être d'accord sur l'éducation à donner, sur certains principes de vie?
Comment il va pouvoir, mon partenaire, me regarder encore comme une femme après m'avoir vue accoucher?
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé?
T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Alors, Amélie, Florian, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui?
Alors, on est venu pour évoquer avec vous les difficultés qu'on a pu avoir dans notre couple suite à la naissance de notre fille.
D'accord.
Ou même avant, d'ailleurs.
Oui, même avant.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
Ça a été un chamboulement. On a chacun notre espace avec des psychologues. Et puis, la naissance de notre fille, ça a un peu tout remis en question. Notre place au sein de nos familles, notre couple, quelle place on lui laissait dans notre nouvelle vie familiale à trois.
Oui, et puis beaucoup de questions, du coup, avec l'arrivée d'une nouvelle personne à s'occuper. Pas forcément, j'ai parfois du mal à m'occuper de moi-même et d'Amélie. Alors c'est vrai que ça a généré quand même beaucoup de questions, l'arrivée d'un petit bébé.
Quel genre de question, Florian?
Est-ce que pour moi je serai un bon père? Est-ce qu'on va faire les choses comme il faut? Il y a toujours ces histoires d'éducation, le lien avec les parents, puis un peu d'appréhension aussi forcément. C'est comme un gros saut dans l'inconnu, donc voilà, comme disait Amélie, passer d'une phase un peu d'adolescence où on était plutôt libre à une phase d'adulte où on pouvait pas faire comme on faisait avant, en fait, c'est surtout ça. Donc beaucoup de questionnements, surtout chez moi.
Disons qu'on n'avait pas le même type de questions. Florian était plutôt sur le côté matériel, comment on s'occupe d'un bébé à proprement parler, en pratique, combien de fois il faut lui donner à manger, à quel moment il faut s'inquiéter, à quel moment il faut aller chez le pédiatre, tout ce genre de questions. Moi, j'étais plutôt dû à mon histoire. Quel lien je vais avoir avec ma fille en tant que maman? Est-ce que je vais réussir à me positionner aussi par rapport à ma propre mère? Et puis aussi, comment on va réussir à s'opposer à toutes les, comment dirais-je, l'éducation qu'on a reçue finalement? Parce que on a reçu une éducation très différente l'un et l'autre. Donc là-dessus, on était assez raccord sur l'éducation qu'on donnerait à notre fille, mais... comment s'opposer à l'éducation qu'on avait reçue finalement? Parce qu'on savait qu'on ne voulait pas refaire les mêmes choses. Comment s'affirmer finalement aussi?
Comment faire le tri? Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez faire différemment?
Oui.
Mais moi, j'aurais dit plutôt faire une synthèse plutôt que s'opposer. Enfin, il y a des choses sur lesquelles effectivement on ne souhaite pas forcément inculquer à notre fille, on va dire. Et puis il y a d'autres, je pense qu'ils sont... Il y a toujours du bon à prendre des deux côtés. Moi, j'étais plus dans la synthèse, mais c'est vrai qu'on est tellement différents de base. On y reviendra peut-être plus tard, mais... Est-ce qu'on va être d'accord sur l'éducation à donner, sur certains principes de vie? Un peu le saut dans l'inconnu de ce côté-là, après avoir essayé d'être déjà raccord au sein de notre couple, ce qui n'était pas forcément évident vu d'où on partait chacun de notre côté.
Là, vous évoquez du coup toutes les préoccupations, alors j'imagine dès la grossesse, sur voilà, comment vous positionnez l'un et l'autre en tant que père et en tant que mère. Est-ce qu'il y a eu des questions sur votre couple, sur tous les deux, voilà?
Bah, c'est plutôt venu après, finalement, parce qu'on s'est rendu compte que notre temps était quasiment consacré à Emma, tout le temps. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que bah, notre couple avait peu de place, finalement. Et donc, on a essayé voilà, de mettre des petites activités en place. On était allé à l'opéra un soir, parce que voilà, on s'est dit, c'est notre soirée. Il faut qu'on essaye de préserver notre couple, finalement. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que bah, Emma nous demande énormément de temps, d'attention. Et je pense que finalement, on n'a plus fait de notre couple une priorité. À tort, enfin, on en est conscients tous les deux. Mais Emma passe avant tout.
Ça vous a surpris, l'un et l'autre, qui est voilà, ce changement et que finalement votre couple soit mis un peu au second plan?
Oui et non.
On savait que ça arriverait.
Un peu, ouais. Oui.
Autant peut-être pas. On pensait que ça serait plus facile de la laisser. Bon, après, il y a les circonstances qui ont fait qu'avec le confinement, tout ça, c'est encore un peu différent parce qu'on a passé énormément de temps avec elle, tous les trois. Donc ça, c'était une grande chance, mais bon, on paye un peu les frais maintenant, du coup. Voilà, on pensait qu'on arriverait plus facilement à se faire des soirées à deux. On a inclus notre vie de famille avec nos amis, par exemple. On a continué à sortir, à aller voir des amis, mais c'était plus notre couple, c'était quand même notre famille à trois.
Et puis c'est vrai que le confinement, quand même, les deux mois et demi ont quand même beaucoup joué. Quoi. C'est vrai qu'on n'est pas sorti, du tout pendant deux mois et demi, donc c'est déjà pesant. L'avantage, c'est qu'on a quand même une activité principale par rapport à d'autres personnes. On n'a pas du tout tourné en rond, mais c'est vrai que c'est quand même, je pense, un peu pesant le fait de ne pas voir la famille, de ne pas voir les amis. C'était pas facile de se positionner et aussi de se décharger un peu sur quelqu'un d'autre. À ce stade. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, on a peut-être une vision un peu faussée. Mais c'est vrai qu'au début, moi, un peu naïvement, je pensais qu'on mettait un bébé dans sa chaise, dans son transat, et puis pendant 30 minutes, et puis qu'on pouvait faire d'autres choses. Et oui, c'était pas du tout le cas.
Oui, là, du coup, Florian, vous dites que l'arrivée de votre fille a enlevé du temps pour vous deux, mais peut-être aussi du temps pour vous individuellement.
Il n'y a plus d'espace individuel, enfin, très peu, enfin... Des fois, même aller prendre une douche, c'est de l'ordre de l'exploit.
Puis c'est vrai qu'on nous avait dit qu'un bébé, ça dormait.
Oui.
Et la nôtre, malheureusement, ne dort pas très bien, que ce soit la journée ou la nuit d'ailleurs. Mais la nuit, ça pourrait passer encore, mais c'est vraiment la journée où c'est pesant.
Oui, comment vous vivez ça, l'un et l'autre? Qu'est-ce que ça suscite en vous?
Beaucoup de choses, parfois du désespoir, parfois de l'incompréhension, parfois... Parfois, on se dit, bah, on fait avec. Avoir un bébé, c'est beaucoup de joie, mais c'est vrai que... Bah, y a des fois, on est un peu dépassé, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi elle ne se sent pas bien? Pourquoi elle n'est pas assez... Enfin, est-ce qu'elle est assez sereine pour pouvoir s'endormir seule? Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de questions.
Vous pouvez vous sentir un peu débordée par toutes ces questions?
Oui, parce qu'on n'a pas de réponse.
On a quand même la culture familiale derrière qui nous dit... faut laisser un bébé, ça peut se laisser pleurer, ça va être trop attaché à vous, faites attention, après ça fait des caprices.
Un bébé koala,
collé
à maman.
Certains de nos amis qui disent, le mien, il a fait ses nuits à deux mois, ou alors non, on le pose dans son lit et puis s'endort au bout de 10 minutes pour ses siestes. Donc ça va même la comparaison, c'est que c'est compliqué aussi à gérer.
Vous évoquez, Florian, les regards extérieurs, les injonctions, les conseils, voilà, tout ce qu'on peut... vous dire, voilà. Vous évoquiez tout à l'heure, Amélie, les difficultés justement avec vos familles d'origine. De quel ordre elles sont ces difficultés? Alors, j'entends la difficulté à faire la part des choses dans tout ce qui peut vous être dit, et vous disiez aussi à vous imposer dans peut-être un modèle éducatif ou des choix que vous faites différents pour votre fille. Quel autre type de difficulté pourrait y avoir?
ben, la place qu'on leur laisse aussi, je pense. On a eu besoin de créer un peu notre cocon à trois avant de laisser de la place au reste de la famille. Et on ne voulait pas que chacun vienne y mettre un peu son grain de sel, finalement.
Dans notre histoire, on a eu pas mal de difficultés entre nous du fait de nos parents. C'est simplement qu'il y a une confrontation des cultures et puis des principes de vie et puis une certaine, enfin chez moi en tout cas, une certaine imprégnation du lien avec mes parents qui est quand même très présent et voilà, qui générait quand même pas mal de difficultés. C'est pourquoi on a notamment quand même fait le choix d'être suivi pour pouvoir en parler, avoir des regards extérieurs sur ce qu'il fallait garder, sur les difficultés qu'il fallait surmonter. Enfin, on avait l'impression d'avoir bien progressé. C'est pour ça qu'on s'était d'ailleurs mariés. Enfin, c'était la première étape. Après, c'est vrai que on savait que l'arrivée d'un bébé allait chambouler cet équilibre qui était parfois quand même un petit peu fragile.
Du coup, vous disiez, Florian, qu'il y avait même déjà des difficultés avant. Vous êtes fait accompagner, voilà, pour vous consolider, vous sentir, voilà, plus solide pour pouvoir accueillir un enfant. Est-ce que vous avez l'impression, du coup, que ça a remis en question le chemin que vous aviez parcouru ?
Moi, oui. Clairement, je te laissais le temps de réfléchir, mais moi, oui. Franchement, j'avais parfois l'impression de revenir à zéro, quoi. Enfin, c'était les mêmes problèmes qui revenaient depuis la naissance d'Emma, donc je me suis dit, je pensais que c'était réglé, et finalement, pas tant que ça, quoi.
Donc ça repointait des fragilités ou des difficultés que vous pouviez déjà rencontrer, ouais. Et comme si là, elles étaient accentuées.
Oui, ça ne concernait plus que nous deux, enfin, il y avait une troisième personne qui était concernée par ça, et du coup, c'était décuplé, ouais.
Oui, non, c'est sûr qu'il y avait encore des difficultés. Moi, je suis plutôt naturel optimiste, donc ce qui importe, c'est nous. Et puis après, le reste, on fait ce qu'on doit faire. Mais bon, c'est facile à dire comme ça en théorie. Dans la pratique, c'est évidemment plus compliqué à mettre en œuvre. Mais...
Merci Amélie, Florian. Ce que je vous propose maintenant, voilà, pour poursuivre la discussion, c'est de rejoindre dans le salon d'à côté Christelle Gollner. Bonjour Christelle Gollner.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute familiale et de couple. Vous exercez en libéral à Paris, dans le 8e arrondissement. Dans mon cabinet, je reçois des parents qui rencontrent parfois des difficultés ou qui se sentent particulièrement bousculés par l'arrivée d'un enfant, tant individuellement qu'au sein de leur couple. Ils peuvent se sentir leur couple sur un fil, parfois. Les inquiétudes peuvent être nombreuses. Se retrouver en couple comme avant, c'est pas forcément simple. Comme vient de nous le dire Amélie et Florian, souvent je distingue ces deux notions, le couple conjugal et le couple parental. Et puis voilà, comment trouver un équilibre entre les deux, comment les faire coexister. Là aussi, c'est pas toujours simple et ça peut demander du temps. Et puis on voit aussi que cette réalité, elle est aussi présente dans les chiffres, hein, au niveau statistique. Le pourcentage de couples qui se séparent dans la première année qui suit la naissance d'un enfant est en augmentation ces dernières années. Du coup, voilà, pour essayer de comprendre ces deux notions, Christelle, voilà, qu'est-ce que c'est que le couple parental et le couple conjugal ?
Alors, c'est vrai que c'est deux notions qui sont différentes, mais en même temps qui s'articulent ensemble. On ne peut pas complètement les délier. Voilà, mais je vais quand même essayer d'en donner une définition. Le couple conjugal, c'est pas juste la somme de deux individus, en fait. C'est une personne singulière et une deuxième personne singulière qui vont en créer une troisième, qu'on va appeler donc le couple. Et chacune va donner un peu d'elle pour donc construire le couple. Alors, comme les groupes, hein, le couple, il connaît un début, il connaît une naissance, il connaît une évolution et il peut connaître une fin. Enfin, il connaît toujours une fin, d'ailleurs, soit une fin psychique, voilà.
Qu'est-ce que vous voulez dire par une fin psychique ?
Une fin psychique, c'est-à-dire le couple qui se sépare. Mmh. Voilà. Et puis, il y a une fin physique qui peut donc être la mort, voilà, mais qui est aussi la fin physique de la séparation physique. Et donc, le couple, c'est un lien qui va unir deux personnes, qui les engage dans une intimité, dans une sexualité. Il transforme la rencontre amoureuse, il transforme la sexualité en engagement et il implique à son tour donc la réalisation d'un projet inconscient dans la durée. Et pour qu'un couple existe, il est nécessaire donc que les partenaires pensent leur relation comme une relation. et qu'ils soient reconnus comme un couple par leur environnement social. Et ça, c'est vraiment un point important dans la constitution du couple. C'est comment il est reconnu auprès de la famille, auprès des familles d'origine, auprès des amis, éventuellement auprès des collègues. Ça compte vraiment. Donc, par rapport à ce que Florian et Amélie évoquaient, en tout cas aussi des familles d'origine et de tout le travail qu'ils ont pu faire avant de devenir parents, c'est aussi un socle important.
Et alors, va être fondateur pour la suite ?
Qui va être fondateur pour la suite, tout à fait. En tout cas, moi, je me rends compte dans les couples que j'accompagne, alors soit avant la naissance d'un enfant, soit après la naissance d'un enfant, en tout cas, ce moment aussi de la présentation, de la rencontre avec les familles, avec les amis. Est-ce que chaque partenaire est accueilli dans les familles d'origine ou pas ? Est-ce qu'il est perçu comme le vilain petit canard ? Est-ce que, voilà, comment ils sont accueillis et comment ils sont reconnus en tant que couple ? On voit bien certains couples, par exemple, qui, en fait, font le choix de ne pas se marier ou de ne pas s'unir de manière plus officielle, non pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce que ce serait s'opposer finalement à un choix parental, en fait. Ce serait dire, mais voilà, vous n'êtes pas d'accord, papa et maman, vous n'êtes pas d'accord, mais nous décidons de le faire.
Amélie, Florian, est-ce que c'est une question que vous avez rencontrée, voilà, cette constitution du couple conjugal et la manière dont vous avez pu être reconnue dans ce couple par vos familles d'origine ? Est-ce qu'il y a eu une difficulté par rapport à ça ?
Alors nous, on rigolait parce que pour le mariage, pour le coup, ça a été plutôt l'inverse. C'était bah, papa, maman, regardez bien, on se marie et c'est nous, quoi. Après, pour l'acceptation, bon, ça a été plus compliqué. De mon côté, Florian a une bonne relation avec mes parents. Moi, c'est un peu plus compliqué avec ses parents parce qu'on est vraiment très différents et qu'il y a des choses que je comprends pas forcément et eux ne comprennent pas aussi. Mais on fait avec. C'est comme ça et d'autant plus depuis qu'on a un enfant, c'est...
En tout cas, là, Amélie, vous nous dites que vous avez vraiment eu besoin voilà, de cet engagement pour affirmer quelque chose de votre couple conjugal et de le faire reconnaître par les autres.
Oui, complètement. Mmh. C'était très important.
Puis, vous disiez tout à l'heure, Florian et Amélie, que vous avez tous les deux eu et tous les deux avaient un espace donc, psychothérapeutique en lien aussi avec toutes ces questions-là, avec vos familles d'origine. Donc, vous avez été traversés par beaucoup de questions. La projection dans le mariage, le désir du mariage, vous a mis, si je comprends bien, au travail, en fait, sur toutes ces questions-là. Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je ne garde pas de ma famille ? Et comment on commence à constituer une enveloppe couple, en fait ? Et à travers toutes ces questions et ce projet de mariage, j'ai idée, voilà, cette enveloppe, elle a commencé à ce moment-là.
Et puis, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas aussi.
Oui, exactement, oui.
Bien avant l'arrivée d'un enfant.
Oui. Ouais. Quelles limites vous avez commencé à mettre aussi avec vos familles d'origine ? Ouais. Et en mettant ces limites-là, en parallèle, vous commencez vraiment à mettre sur le devant de la scène non plus juste l'enfant de vos parents, enfin le fait que vous êtes l'enfant de vos parents, mais vous êtes l'enfant et aussi un couple face chacun à vos parents et vos familles d'origine.
Oui, souvent avec les couples que j'accompagne, je parle de la forteresse, voilà, de l'importance de construire leur forteresse. Vous parliez aussi de cocon, Florian, et de quelque chose, de poser des limites pour pouvoir se constituer. Alors, venez de nous décrire, Christelle, le couple conjugal, du coup, le couple parental. Alors là, déjà, on entend bien qu'il va s'inscrire dans la continuité de ce couple conjugal.
Alors, le couple parental, je trouve qu'ils en ont bien parlé, Florian et Amélie, c'est le couple qui va se positionner donc, par rapport aux enfants, qui va prendre des décisions, qui va réfléchir à quelle éducation. Hein, vous disiez, Florian, on a des modèles très différents, donc il faut faire des choix. Comment on fait des compromis ensemble ? Comment on construit notre modèle ? Hein, je ne sais plus quel terme exactement vous avez utilisé, mais votre idée, voilà, c'était vraiment pas de s'opposer, mais de construire, je crois. Hein.
Faire une synthèse.
Faire une synthèse, voilà, c'est ça. Faire une synthèse de ces deux modèles-là. Donc, c'est quelles décisions communes on va prendre ensemble par rapport à nos enfants. Quel est le projet familial ? On passe du projet de couple au projet familial. Et l'idée, c'est comment on va arriver à faire coexister ces deux espaces. Le couple parental, ça pose aussi la question de comment on reconnaît l'autre en tant que parent. Alors, dans la question du couple conjugal, on évoquait aussi comment les familles d'origine reconnaissent, et le monde social reconnaît le couple conjugal. Là, c'est comment chacun se reconnaît en tant que parent, mais aussi comment l'environnement social reconnaît ce couple en tant que couple parental. Voilà. Est-ce que c'est un couple parental qui est reconnu, ou est-ce que c'est une mère qui est reconnue, ou est-ce que c'est un père qui est reconnu ? Alors, c'est les deux, mais c'est aussi un couple parental. Voilà.
Il y a bien ces trois entités
exactement,
distinctes
qu'on retrouve également. Hein, je disais que le couple conjugal, finalement, c'est 1 plus 1 égale 3. Mais le couple parental aussi, en fait. C'est un père, une mère et un couple parental.
Florian, Amélie, quand votre fille est arrivée, depuis combien de temps vous étiez en couple ?
9 ans. Ouais, c'est ça, 9 ans.
Est-ce que du coup, Christelle, cette notion de temps, voilà, parce qu'il y a des jeunes couples, des couples plus installés depuis plus longtemps, voilà, est-ce que ça, ça va jouer dans la manière dont le couple parental va se construire ?
Alors, tout à fait. Et ça peut se jouer de différentes manières. Il y a des couples qui sont plongés, des couples conjugaux plongés dans la parentalité extrêmement vite. Alors, là, effectivement, cette enveloppe du couple conjugal, elle n'est pas forcément encore constituée. Donc, il y a un double travail quoi, qui se fait en même temps. C'est comment constituer le couple parental, mais comment aussi constituer le couple conjugal. Et il y a des couples, ben, comme Florian et Amélie, donc, qui ont une longue relation avant de devenir parents, donc, pour lesquels l'intimité du couple, les valeurs partagées, enfin, il y a une expérience et une histoire commune en fait, qui est solide, qui est importante. Alors, c'est à la fois une force, évidemment, parce qu'il y a un récit avant de devenir parent. Mais parfois, ça peut aussi être compliqué, parce que certains parents ensemble depuis très longtemps disent « Mais waouh, quoi, notre relation, elle est tellement existante, tellement forte dans un à deux, que ce passage à trois peut être vraiment vécu comme très violent chez certains couples, et donc peut amener davantage de difficultés, comme si l'enveloppe était tellement solide, tellement forte, justement, l'enveloppe du couple conjugal, que laisser la place à un troisième peut être plus difficile. Mais voilà, mais donc il n'y a pas de règle. Hein. C'est en même temps une force, et parfois ça peut être un point de difficulté.
Oui, en tout cas, dans l'un et l'autre, ça m'évoque vraiment la question de l'adaptation et de comment le couple va s'adapter à cette nouvelle situation de l'arrivée d'un enfant, ou d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième. Voilà, qu'à chaque fois, il va y avoir quelque chose qui va se réorganiser et nécessiter de se réadapter.
Tout à fait. Alors ça, c'est un point important, effectivement. C'est-à-dire que les bouleversements que Florian et Amélie ont évoqués par rapport à l'arrivée de leur fille, ces bouleversements se revivent aussi, alors autrement, pas avec les mêmes questions, mais à l'arrivée d'un deuxième enfant, d'un troisième et plus s'il y a. C'est pas réglé une bonne fois pour toutes quand on a eu un premier enfant. Toutes les questions qu'ils ont pu évoquer. Les questions de place, les questions de relations avec les familles d'origine, de quelle place on laisse au couple, de qu'est-ce qu'on choisit pour notre enfant. Voilà, dans un couple, on est couple parental mais conjugal aussi d'ailleurs, on n'est pas d'accord sur tout. Et c'est pas un problème de pas être d'accord sur tout, mais ces questions-là sur ce sur quoi on est d'accord, on n'est pas d'accord en tant que parent, bah c'est pas forcément pareil pour chaque enfant, parce que chaque enfant est unique et on construit pas la même relation et on n'est pas le même parent avec chaque enfant, c'est pas vrai, ça c'est un mythe.
Bien sûr. Oui, et puis chaque enfant, comme vous dites, est différent, arrive dans un contexte différemment, vient interroger chacun aussi individuellement en fonction voilà de sa propre histoire, de sa place dans sa fratrie, voilà qui a plein d'enjeux différents à chaque fois. Vous l'avez soulevé, Amélie et Florian, alors voilà, cette question de la place des familles d'origine, comment les choses peuvent se faire? En tout cas, pour moi, il y a souvent cette question de la différenciation, vous nous l'avez déjà dit un peu, Christelle, voilà, entre la famille d'origine et puis la famille, le couple, et puis la famille qui va se constituer.
Mais je trouve que Florian et Amélie l'ont beaucoup dit, ils ont à plusieurs reprises évoqué le cocon qu'ils construisaient. Voilà, Amélie, vous nous disiez créer notre cocon à trois avant de laisser de la place. Et donc, je crois que vous aviez bien parlé de justement de cette différenciation. Alors, quelque chose que moi j'observe souvent dans ma pratique, j'accompagne pas mal de femmes enceintes. Et puis, quand on parle du projet après l'accouchement, etc., un certain nombre peuvent dire ah ben oui, j'ai programmé. Alors, surtout quand c'est l'été, quand c'est des arrivées de bébé l'été, programme d'aller passer un certain nombre de semaines avec leur bébé dans leur famille d'origine, sans le père. Et ça pose beaucoup de questions parce que, alors, c'est quel choix fait le couple pour construire ce nid-là ? Est-ce que c'est construire un nid dans la famille d'origine ou construire un nid, un cocon avec son partenaire et avec son bébé. Donc, c'est comment on construit sa famille. Et alors, évidemment, ça pose plein de questions, parce que souvent, il y a des conflits, des incompréhensions. Les parents qui disent « Mais je comprends pas, tu seras beaucoup mieux au bord de la mer, par exemple, qu'à Paris. » Enfin, voilà, avec ton bébé. Et donc, c'est vraiment une discussion à presque trois générations, quoi. Mmh. Les parents, qui incluent donc le bébé, et puis avec les familles d'origine. Et donc, cette différenciation, elle est fondamentale, parce que dans les difficultés que rencontre un couple, le couple conjugal, mais aussi le couple parental, je dis toujours que c'est vraiment un conflit des familles d'origine. Donc c'est qu'est-ce que j'emmène, chacun arrive avec sa valise, voilà, sa famille de sa famille d'origine, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde, parce qu'on va construire une valise commune. Alors la valise du couple conjugal, voilà, qu'est-ce que chacun a envie d'y mettre, qu'est-ce que ensemble on a envie d'y mettre. On construit un nouveau mythe ensemble, le mythe de notre couple et après le mythe aussi de notre famille. Qu'est-ce qu'on met dans la famille qu'on construit ? Et cette différenciation, elle est fondamentale parce que quand elle n'est pas travaillée, quand il n'y a pas eu ce travail de filtre, ce travail d'émancipation d'une certaine manière, de remise en cause, et ben alors c'est des couples qui, ça se traduit par les phrases comme « Non mais quand tu dis ça, on dirait ton père, c'est insupportable » ou là on dirait ta mère. Voilà, et on se rend compte que finalement dans le lit conjugal, il n'y a pas juste deux personnes, mais il y a 4, 5, 6 personnes, voire plus parfois. Mmh. Et ça, évidemment, ça vient poser vraiment des grosses difficultés dans le couple conjugal. Et je trouvais, enfin, Amélie Florian disait, mais on est devenu adulte. Voilà. Et ce passage-là, de l'adolescence à devenir adulte, c'est ça, en fait. Mmh. C'est comment je suis une personne différenciée de mes parents. C'est ça, devenir adulte individuellement. Et comment nous sommes un couple différent de celui de mes parents aussi. Mmh. Voilà, ça pose vraiment cette question-là. Et ces deux aspects sont fondamentaux. Je trouve, Florian, vous avez dit plusieurs fois, mais moi, j'ai besoin d'avoir de l'espace pour moi, de faire des choses, et là, j'ai plus le temps. Hein. Donc, il y a à la fois cet espace pour soi, et devenir adulte et avoir une identité propre, c'est ça. C'est se créer un chez-soi. Et puis, c'est aussi se créer un chez-nous. Voilà, un chez-nous en couple.
Oui, là, dans tout ce que vous disiez, Christelle, ça m'évoquait les patients, quand je leur demande de me parler de leur famille, parfois je suis surprise, ils ne me parlent pas de la famille qui constitue avec leur conjoint ou leur conjointe et leurs enfants, ils vont me parler de leurs parents et de leur famille d'origine. Et où là, je vois bien voilà, qu'il y a quelque chose de ce travail de différenciation, de séparation qui n'a pas pu se faire ou qui ne s'est pas encore fait. Et en effet, souvent, c'est quand même source de difficultés.
Oui. Et il va y avoir des difficultés et du côté du conjugal et du parental. Parce que quand effectivement, et ça c'est très caractéristique hein, de ces couples-là qui vont effectivement parler de leur famille d'origine quand on leur demande de présenter leur famille, ou alors quand on leur demande aussi de se présenter, quand on dit bah, « est-ce que vous pouvez me présenter votre partenaire ?» Et que moi je demande souvent ça dans les thérapies de couple, je leur dis « est-ce que chacun peut présenter son partenaire ?» Et quand l'autre est défini par ses propres parents, alors voilà, il est issu de telle famille, ses parents vivent à tel endroit, il a tant de frères et sœurs, etc. Donc quand il est défini par sa famille d'origine, c'est vraiment un indicateur. Par rapport aux enfants, ça va poser de vraies difficultés parce que ils vont aussi dire « oui, mais moi, ma mère, elle fait comme ci, ma mère, elle fait comme ça, c'est comme ça que moi, j'ai appris ». Et alors, on voit aussi toutes les intrusions dans le couple parental. Donc il y a vraiment des intrusions quand cette différenciation elle n'est pas faite avec la famille d'origine. Ça fait intrusion dans le conjugal, mais aussi dans le parental.
Dans le parental, et là, on entend tous les conflits qui peuvent émerger de ça.
Exactement. Et c'est vrai que quand moi, je reçois des couples dans mon cabinet, en fait, le cœur du travail, très souvent, il est autour de cette question de la différenciation.
Oui, c'est quelque chose qui revient très souvent, en effet. Vous nous disiez tout à l'heure, Christelle, voilà, l'importance de se reconnaître l'un et l'autre en tant que partenaire, puis en tant que père ou en tant que mère. Est-ce que, Amélie, Florian, avant l'arrivée de votre fille, est-ce que vous avez parlé ensemble de comment, voilà, qu'est-ce que c'était pour chacun, être père, être mère ?
On s'est surtout dit, bon alors ça on fera pas comme nos parents, mais plutôt dans le couple, plutôt qu'individuellement. On s'est fait la réflexion, mais plutôt seul. Enfin, moi, je savais qu'il y a des trucs que ma mère fait que je ne voulais absolument pas reproduire. On a plutôt parlé de l'éducation, finalement, mais pas tant du comment être père ou mère.
Qu'est-ce que ça représente pour chacun ?
Je trouve qu'Amélie, je trouvais qu'elle se projetait bien en tant que mère. Enfin, c'était un désir qu'elle avait depuis très longtemps, enfin depuis longtemps. Et en général, elle était beaucoup plus prête que moi, enfin sur l'ensemble des étapes de la vie, notamment le mariage, et aussi du coup l'enfant. Et moi, c'est vrai qu'être père, je comprenais pas comment on pouvait avoir envie d'être père quand on savait pas ce que c'était, si ce n'est reproduire ce que font les autres. Et donc moi, je trouvais qu'on était très bien tous les deux. Je voyais pas pourquoi il fallait qu'on introduise une troisième personne dans le couple.
Vous dites qu'il y a eu un décalage dans le temps. Voilà, que vous n'étiez pas au même stade, si on peut dire.
Ça, c'est ce qui définit notre couple.
Au même rythme.
Il y a toujours un petit décalage.
Donc, faut surtout pas que ça change. Si c'est le mythe de votre couple.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est fréquent, Christelle, voilà, qui est ce décalage de temporalité pour s'approprier aussi ce changement du couple conjugal au couple parental ?
Oui, c'est très fréquent parce que dans un couple, on n'est pas des clones. On fonctionne différemment et c'est ça qui est riche. Donc ce décalage, il est pas un problème. En fait, ce qui est un problème, ce serait de ne pas en parler de ce décalage. Mais de pouvoir se construire à un rythme différent, d'échanger. Puis parfois, sur certaines choses, c'est l'un qui va plus vite et puis ça peut changer. Sur autre chose, c'est l'autre qui va plus vite. Donc voilà, les choses ne sont pas figées ni linéaires. Ce qui me semble en tout cas important, et je trouve que vous le dites un peu, Florian et Amélie, vous avez échangé en fait sur ces désirs-là, sur mais quand est-ce qu'on a envie de devenir parent ? Qu'est-ce que c'est que devenir parent ? Qu'est-ce que j'y mets ? Qu'est-ce que je me représente ? Et finalement, c'est faire l'expérience avant de devenir parent, de se parler. De se parler de ça, il n'y a rien de plus terrible en fait que quand le couple, conjugal ou parental, vit côte à côte sans se parler avec comme un mur qui sépare. Et quand ce mur qui sépare, c'est parfois l'enfant. Et du coup, l'enfant qui se retrouve mis à une place qui n'est pas sa place, puisqu'il se retrouve vraiment coincé entre son père et sa mère, et non pas porté par son père et sa mère, porté pour grandir. Voilà, donc c'est le couple qui a fait l'expérience avant de se parler de ses représentations. Et je crois que c'est très aidant pour l'après, pour ce moment, cette fameuse période du baby clash, comme certains l'appellent, qui est ce moment après l'arrivée d'un enfant, qui est une telle période de bouleversement que oui, ça amène à des clashs. Mais ces clashs, ce baby clash, il n'est pas là pour toujours, ça passe. Voilà, c'est pas pour toute la vie. Alors parfois ça passe pas, c'est vrai. Comme vous nous le disiez Mathilde, il y a une augmentation des séparations à l'arrivée d'un bébé. Certains chiffres parlent de 20% dans les mois qui suivent la naissance d'un enfant, ce qui est effectivement un chiffre quand même assez important. Donc c'est une période de la vie qui mérite qu'on en prenne aussi un grand soin. Et j'ai envie de dire comme aussi toutes les périodes clés dans les cycles de la vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des étapes dans la vie qui sont des moments forts dans l'existence, qui sont des grands changements, qui demandent des grandes réadaptations. Donc il y a la constitution du couple, vous parliez de se différencier de sa famille d'origine pour construire son couple, c'est établir un chez-soi, c'est penser à des projets communs, renégocier les relations avec les familles, les amis, les collègues, etc. Enfin, ça amène beaucoup d'aménagements. Puis il y a l'arrivée d'un premier enfant, c'est un moment très fort dans l'existence. Il y a le couple face aux adolescents, qui est aussi un moment extrêmement fort. Et puis, il y a encore d'autres étapes, mais qu'on n'évoquera pas là aujourd'hui, c'est pas notre sujet. Mais en tout cas, l'arrivée du premier enfant est effectivement un moment dans les cycles de vie qui est extrêmement fort.
Là, ce que vous disiez aussi, Christelle, dans ce partage, le fait de se parler, l'importance de se parler de ce qu'on imagine, permet aussi de pouvoir accepter la réalité. Voilà, dans ce moment, après la naissance, des premières semaines, il y a une confrontation à une réalité qui est parfois très différente de celle qu'on attendait ou qu'on avait imaginée. Et le fait d'avoir pu en parler avant, parce que de parler de ce qu'on imagine, c'est parler de ses besoins ou de ses attentes. Et du coup, ça permet aussi de continuer ce dialogue quand cette réalité, elle peut être un peu compliquée aussi à accueillir.
C'est ça. Et donc, c'est se réajuster ensemble face à la confrontation au réel. Parce qu'il y a effectivement, qu'est-ce qu'on s'imagine de ce que va être la vie de parents, Florian, vous nous disiez, mais moi, je m'imaginais que ma fille, elle serait dans le transat pendant 30 minutes et puis qu'on pourrait aller faire autre chose. Mais souvent, les parents le disent, mais je comprends pas. Pourtant, quoi, c'est changer les couches, donner à manger, mais ça laisse du temps pour plein de choses. Hein. Donc, avant de devenir parent, c'est ce que disent tous les parents, enfin tous les futurs parents. Et puis, au moment où ça arrive, hein, ce que vous dites, c'est vraiment, enfin, très, très fréquent en fait, hein, parce qu'il y a vraiment une confrontation au réel. Et donc, voilà, il y a un ajustement qui se fait parce que vous en discutez en fait ensemble. Donc, ce décalage qu'il pouvait y avoir entre l'imaginaire et le réel, qui est normal. Qui est vraiment normal, hein, tout le monde y passe, enfin tout le monde passe par là, ben vous le traversez ensemble, vous le traversez pas chacun dans votre coin. Et ça, ça participe de la construction aussi de votre couple parental.
Je pense que moi, c'est ce qui ressort de nos parcours avec nos psychologues respectifs, mais enfin, la communication, c'est la base. Quoi. Enfin, on nous avait donné, pendant notre préparation au mariage, le conseil de jamais se coucher fâché, et toujours sortir les problèmes avant.
Mais on a toujours réussi.
On essaye au maximum, mais c'est vrai que sur la préparation, enfin en parler avant et aussi parler pendant, parce que Florian disait que moi j'étais beaucoup plus, j'avais en tête le rôle de mère et finalement quand je suis devenue maman, je trouvais pas tout à fait ma place. Et l'image qui m'est venue, c'est d'avoir l'impression d'être une babysitter qui promenait la poussette dans la rue et du coup j'étais pas du tout à l'aise. Alors que finalement Florian, qui avait beaucoup plus de doutes et qui se posait beaucoup de questions, bah c'est devenu beaucoup plus naturel.
C'est ça, et on voit le décalage entre l'imaginaire et le réel. En mouvement en permanence et en ajustement en permanence. Mmh.
En tout cas, ce dialogue, j'entends pour vous, Amélie et Florian, il a permis, malgré les décalages et malgré les différences, de créer quelque chose de l'ordre de la cohésion entre vous, d'une cohésion parentale.
Bah, c'est comme ça qu'on essaye d'affronter les problèmes, en tout cas.
Est-ce que vous avez des choses, Christelle, à nous dire sur cette question de la cohésion parentale au moment de la construction, mais c'est aussi quelque chose qui va être important tout au long, au fur et à mesure des années, voilà, face à l'enfant, voilà, comment le couple va se positionner.
Par rapport à ce mot cohésion, juste faire un petit préambule, parce qu'il y a souvent l'idée qu'il faudrait être toujours d'accord. Mmh. Et il me semble que c'est une idée reçue et c'est une pression que les parents se mettent, mais qui n'est pas tellement légitime et pas forcément utile, en fait. Parce que c'est riche, aussi, de ne pas être complètement d'accord. Ne pas être d'accord, c'est aussi, justement, laisser la place aux individualités, aux positionnements différents et à la différenciation. L'enfant est bien issu de deux êtres différents et pas d'un clone. Et parfois, il y a effectivement comme ça des couples parentaux, hein, qui en permanence veulent être comme un bloc. Mais ce bloc-là, ça empêche aussi parfois l'enfant de pouvoir jouer un peu avec son père, jouer avec sa mère, jouer relationnellement. Mmh. Alors c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre, où on met le curseur. Hein. S'il n'y a aucune cohésion, que l'un dit une chose et l'autre dit autre chose en permanence, on se retrouve dans des situations parfois... Alors, extrêmes qui sont graves, c'est-à-dire où l'enfant en fait se retrouve aliéné, hein, se retrouve complètement instrumentalisé là dans un conflit conjugal. Donc là, on est dans le curseur extrême. Mais à l'inverse, le bloc parental face à l'enfant, je ne crois pas que ce soit non plus une bonne idée. Donc c'est vraiment cette cohésion, hein, elle doit laisser la place aussi à la différenciation. Parce qu'on retrouve aussi, quand il n'y a pas d'autorisation à se différencier, il peut y avoir des rapports comme ça de soumission à un modèle. Alors, puisqu'on ne peut pas avoir un avis différent, je vais me soumettre à ce que toi, tu penses de ce qu'il faudrait être comme parent. Donc, une soumission de l'un ou de l'autre. Et il me semble que c'est important qu'il y ait quelque chose de symétrique, hein, dans le couple et que ce soit une discussion. Et comme toute discussion et comme toute relation avec une altérité, voilà. Il doit y avoir de la place pour la subjectivité.
En tout cas, là, ce que vous évoquez, ça m'évoque la question de la complémentarité. Et que finalement, dans cette cohésion, il y a des choses peut-être fondamentales sur lesquelles, en effet, il peut être important d'être d'accord. Mais dans ce être d'accord, il peut y avoir différentes manières de faire. Un père et une mère, ou en tout cas un parent et un autre parent, ne vont pas faire de la même manière. Donc moi, j'entends beaucoup, hein, de patients dire « mais mon conjoint, il ne fait pas comme ci ou il ne fait pas comme ça ». Finalement, ça, c'est peut-être pas très grave. Et que c'est important aussi que l'enfant puisse expérimenter différentes manières de faire.
Tout à fait. Et il expérimente ça avec ses parents. Et c'est aussi intéressant quand il peut l'expérimenter à l'extérieur, alors que ce soit avec les grands-parents, si on veut reparler des familles d'origine. Et ça, d'ailleurs, c'est parfois un point très compliqué, parce que cette cohésion dont vous parlez, il y a la cohésion dans le couple, et puis il y a la cohésion dans les positions grand-parentales et parentales. Et parfois, il y a une attente des parents que les grands-parents fassent pareil. Et ça crée parfois des conflits très importants. Et moi, souvent, ce que j'amène justement à travers, enfin, ce que je travaille avec les parents, c'est en quoi ça peut être intéressant et chouette pour l'enfant ou les enfants de faire des expériences relationnelles, des expériences de vie qui sont aussi différentes de ce qu'ils vivent avec leurs parents. Parce qu'ils se nourrissent d'une palette de couleurs qui est quand même beaucoup plus riche que d'avoir une ou deux couleurs, quoi. Ça fait un tableau un peu plus complexe, joyeux.
Oui, et puis qu'il ne faut pas oublier dans ces conflits avec les grands-parents que les personnes qui éduquent, qui élèvent l'enfant restent les parents. Les grands-parents peuvent être des éducateurs alternatifs ou complémentaires, mais ce ne sont pas eux le socle, même s'ils peuvent favoriser ou consolider ce socle. Mais les parents restent à leur place de parents,
tout à fait.
La première place. Parce qu'il peut y avoir aussi cette peur-là que si les grands-parents font différemment, qu'est-ce qui va en être pour mon enfant? Ça va être terrible, toute mon éducation sera mise à mal. Non, voilà, les grands-parents sont au second plan, ne sont pas au premier plan.
Oui, et c'est très intéressant ce que vous dites, Mathilde, parce que certains parents, quand leurs enfants ont été confiés aux grands-parents pour une semaine, par exemple, disent « Oh là là, ça y est, il faut tout recommencer, il faut recommencer toute l'éducation après une semaine. » Alors, en général, ça c'est un indicateur que la différenciation avec les familles d'origine, justement, reste à travailler, parce que ben non, tout est pas à refaire. Je veux dire, le lien avec les parents restent les figures d'attachement principales. Est-ce que l'enfant vit et intègre à l'intérieur de lui avec ses parents n'est pas balayé après une semaine de vacances avec des grands-parents ou d'autres, ou avec des amis ou je ne sais qui.
Chacun garde sa place.
Tout à fait. Mais il faut effectivement, sur ce chacun garde sa place, Amélie, vous avez évoqué ça, la question de trouver sa place, trouver sa place en tant que couple conjugal, trouver sa place en tant que mère, en tant que couple parental. C'est une question qui est vraiment au cœur, quoi, de ce travail du couple conjugal au couple parental, trouver sa place.
Là, du coup, Christelle, vous nous avez bien dit, voilà, le couple conjugal, ensuite, voilà, avec l'arrivée de l'enfant, le couple parental qui va se construire. Et qui, voilà, il y a une question de temporalité. Souvent, moi, je dis aux couples que j'accompagne que le temps de la grossesse est souvent un temps un peu privilégié du couple conjugal autour du projet d'enfant. Et puis, après la naissance d'un enfant, le couple parental va prendre un peu le dessus, voilà, va être plus important, plus prégnant pour quelques semaines, quelques mois, parce que l'enfant aussi a besoin de l'entière disponibilité de ses parents pour bien se développer. Donc voilà, les choses aussi sont fluctuantes du couple conjugal au couple parental, voilà, ça fluctue dans le temps.
Tout à fait. D'ailleurs, souvent, au moment de la grossesse, les parents disent « Ah bah oui, on profite, on fait notre dernier week-end en amoureux avant l'arrivée de notre enfant. » Et vous avez raison, l'espace du couple conjugal ne peut pas être le même, et c'est même inquiétant quand il est le même à l'arrivée d'un enfant, parce que ce bébé qui vient d'arriver a besoin d'une disponibilité psychique, physique, relationnelle, entière. Donc, ça efface un peu le couple conjugal. Et ça, c'est normal. C'est normal, c'est sain. Et chaque couple, chaque famille va évoluer sur un rythme différent. Il n'y a pas de règle sur, à 3 mois de l'enfant, il faudrait avoir fait un premier resto, avoir fait un premier week-end en amoureux à 6 mois. Non, il n'y a pas de règle comme ça. La question, c'est plutôt comment chacun s'y retrouve dans le couple, en fait. Et donc, le rythme va être différent pour chaque couple. Mais effectivement, il y a, en fonction des moments de la vie, le couple conjugal qui est un peu plus en avant que le couple parental, et puis ça bouge. À un moment, le couple parental est plus au devant, en fait, de la scène. Donc, il s'articule comme ça en permanence. Mais vraiment, c'est comment chacun s'y retrouve, quoi.
Oui, et puis dans ce comment chacun s'y retrouve, alors vous disiez, voilà, le couple individuellement aussi, là aussi, peut y avoir des décalages, et c'est pas forcément grave. Voilà, c'est comment le couple, chacun des membres du couple vont en parler ensemble pour pouvoir traverser finalement cette étape-là. Ce qui est important peut-être aussi, c'est de savoir qu'il y a des moments où le couple parental va prendre plus de place, que le couple conjugal est peut-être au second plan et que c'est pas grave et ça va fluctuer dans le temps, mais d'avoir aussi en tête que c'est important que le couple parental ne prenne pas non plus toute la place, tout
c'est
le
ça.
temps.
C'est ça. En tout cas, en tant que psy, moi, c'est parfois quelque chose que je dis chez certains patients qui sont dans l'idéalisation complète de l'arrivée de l'enfant. Alors, il ne s'agit pas de casser l'idéalisation parce qu'elle est importante, cet imaginaire, il est important. Et en même temps, de pouvoir un petit peu nuancer, ça permet aussi de commencer à se représenter ces bouleversements, en fait, voilà, et de pouvoir les accueillir un peu plus sereinement. Ce décalage, en tout cas, il est normal et c'est un réajustement. Et c'est toujours se parler. Enfin, Amélie l'a dit, c'est vrai que ça paraît un peu basique et de la psychologie de comptoir, mais oui, effectivement, se parler, se rencontrer, se regarder, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental.
Oui, et que même si dans ces premiers temps, voilà, de l'arrivée d'un enfant, le couple parental est au premier plan, le fait de penser, voilà, même si on n'a pas forcément le temps, voilà, de se retrouver en tant que couple conjugal, le fait d'y penser, le fait de réfléchir à ce qu'on aimerait faire, voilà, même si c'est pas encore possible, voilà, c'est une manière de lui donner de la place, de le faire exister.
De se dire déjà, oh, ça manque, ça nous manque. C'est effectivement le faire exister.
Aujourd'hui, Amélie, Florian, comment vous prenez soin de votre couple conjugal ?
Eh bien, je pense que c'est là le principal problème, c'est qu'on n'en prend plus soin. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. Donc, bon, on le sait et on s'en parle. Et voilà, on sait que ça nous manque en l'occurrence. Mais on essaye de. Alors, Florian dirait qu'on essaye de se faire des petits apéros de temps en temps, tous les deux, pendant que la petite voilà, joue un petit peu. C'est notre difficulté en ce moment.
Oui, et puis c'est plus difficile pour l'une que pour l'autre. C'est vrai que. J'y trouve peut-être un peu plus mon compte qu'Amélie, mais c'est vrai que c'est Amélie m'en parle souvent, moi je lui en parle un peu moins souvent. Mais bon, ça fait partie des petits décalages qu'on a. C'est vrai que j'ai l'esprit très pris par notre fille, et puis aussi forcément par le travail, donc ça laisse que peu d'espace dans une journée en fait pour s'occuper d'autres choses.
Christelle, ce qui revient beaucoup aussi autour de cette question de comment se retrouver en tant que couple conjugal après l'arrivée d'un enfant, c'est la question du retour à la sexualité, à la question de la vie sexuelle, de l'intimité. Voilà. Comment ça se dessine ?
Alors, c'est effectivement une question qui est vraiment centrale. Hein. Quand les couples viennent après l'arrivée d'un enfant, moi, je pose rapidement la question en fait, de la vie sexuelle et du vécu de chacun. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de bonne manière d'avoir une vie sexuelle ou d'une mauvaise manière, mais plutôt comment chacun s'y retrouve. Mais c'est vrai qu'il y a toute la question aussi du vécu de l'accouchement. Ça, c'est quand même un point important, du vécu de l'accouchement pour la mère et pour le père. Parce que, évidemment, la manière... Et d'ailleurs, certaines femmes sont très inquiètes de ça. Elles disent, mais comment il va pouvoir, mon partenaire, me regarder encore comme une femme après m'avoir vue accoucher ? Voilà. Donc la question de l'accouchement, du rapport au corps, hein, c'est vraiment central dans cette question de la sexualité. Donc c'est comment se réapproprier son corps. Et c'est vrai que dans une période où souvent les corps du couple se rencontrent moins, mais même en dehors d'un moment d'intimité sexuelle, les corps se rencontrent moins parce que les corps sont aussi très dans un corps à corps avec le bébé. Voilà. Et on ne peut pas se réapproprier son corps juste mentalement, en fait. Se réapproprier son corps, ça doit aussi passer par le corps, voilà. Par la danse, par les massages, par se caresser, par, voilà. Par se faire des câlins. Alors, pas des câlins qui seraient des câlins comme on ferait un câlin...
On se tape sur le dos.
Ou comme on ferait un câlin à son frère ou sa sœur, mais un câlin comme on fait à son amoureux, son amoureuse. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, en tout cas, là, vous nous dites, Christelle, que la sexualité, ce n'est pas que le rapport sexuel, qu'il y a d'autres choses. Voilà, c'est ce corps à corps, la manière de se toucher, mais aussi la manière de se regarder avec désir, comme objet de désir.
C'est ça. On est dans une culture, quand même, où la sexualité est souvent réduite à la pénétration. Mais c'est bien au-delà de ça. La sexualité, l'érotisation, il y a plein de choses à développer, à créer, à construire ensemble, à imaginer. Donc c'est quelle place aussi le couple peut laisser donc, au désir, au fantasme. Hein, et ça, je crois que c'est quelque chose souvent qui est assez difficile. Hein. La question des fantasmes, il y a souvent une honte comme ça. Hein, alors que finalement, quand je peux laisser rentrer l'autre aussi dans mon imaginaire et partager avec l'autre, alors ça donne une autre dimension à la sexualité. Et souvent, ce qui revient beaucoup, c'est qu'il y a un peu quand même une désignation des femmes. Hein. Alors souvent, c'est elle a plus de libido, elle veut plus, depuis qu'elle est mère...
Elle est en fusion avec son bébé.
Voilà, bon. la question quand même, ce que ça pose, évidemment, il n'y a pas celui qui veut pas. C'est un peu réducteur.
C'est comment ça se construit à deux.
Comment ça se construit? Qu'est-ce que l'autre partenaire fait pour se rendre désirable aussi? Donc, je vois Amélie qui réagit. Qu'est-ce que l'homme ou la femme dans une relation homosexuelle, hein, parce que la question évidemment se pose non pas que dans les couples
hétérosexuels,
mais homosexuels, et d'ailleurs je dis la femme est dans un couple homoparental aussi homme, donc la question se pose aussi dans ces couples plus là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est pas en mettant la pression de toute façon que ça va faire émerger le désir. Mais c'est une vraie question qui est parfois taboue. Et ce qui, je pense, c'est vraiment un problème que ce soit tabou, parce que c'est quand même au cœur de la relation de couple et du couple conjugal. Parce que quand même, une des choses qui différencie un couple d'amis d'un couple conjugal, c'est la sexualité. Et encore une fois, c'est pas le nombre de fois où on fait l'amour par semaine. C'est pas ça.
C'est la satisfaction. Voilà. Il y a des couples très heureux qui n'ont pas forcément des rapports très fréquents, mais qui ont pleinement satisfaction.
Exactement.
En tout cas, moi, je trouve aussi, il y a souvent cette fausse idée que la sexualité, ça doit être quelque chose de spontané. Alors qu'on sait aussi que la sexualité, c'est quelque chose qui est complètement construit. Alors en effet, au début d'une relation, chacun va se rendre disponible. La femme va se préparer, mettre de la lingerie. Chacun se rend disponible pour rencontrer l'autre et pour avoir un rapport sexuel. Et finalement, ça n'est pas forcément dit, mais c'est implicite et c'est là. Et du coup, une fois qu'il y a les enfants et la famille, comment on va retrouver, qu'est-ce qu'on va faire pour se rendre disponible pour l'autre? Et que c'est pas spontané, c'est là au début, puis après ça disparaît. C'est juste qu'après, on fait plus forcément cet effort de se rendre disponible pour l'autre.
C'est ça, la sexualité n'a rien de naturel.
Exactement.
En fait, l'érection a quelque chose de naturel, mais il y a des érections qui n'ont absolument rien à voir avec le plaisir ni le désir. L'érection matinale, il n'y a pas de désir sexuel. Mais il y a souvent une confusion entre les deux.
Est-ce que, Christelle, il y a un lien entre la sexualité avant l'arrivée d'un enfant, la sexualité du couple conjugal, et puis après? Est-ce que... s'il y a des difficultés avant, il y en aura forcément après ou pas ou... Voilà.
Alors, pareil, il n'y a pas de règle, donc je ne pourrais pas répondre de manière oui ou non. L'arrivée d'un enfant, en tout cas, c'est un mythe de penser que ça résout les problèmes. Donc, il y a parfois cette idée que ça va réunir le couple, le rassembler, le rendre plus fort, etc. Ça, c'est un mythe. L'arrivée d'un enfant va plutôt effectivement faire effet aimant qui attire à la surface ce qui était un peu resté au fond. Voilà, ou faire effet loupe, pour le dire autrement. Donc, ça peut effectivement mettre en avant des problématiques qui étaient préexistantes.
Que ce soit la sexualité ou
autre chose. Mais ça, l'arrivée d'un enfant dans la sexualité peut aussi, à l'inverse, ouvrir sur autre chose. Parce que c'est un bouleversement dans la féminité, dans la masculinité. Et donc transformer, puisqu'il y a une transformation individuelle, donc transformer aussi le rapport au corps, le rapport à l'autre. Comment je peux m'autoriser, les femmes ça le disent parfois, qu'après l'expérience de l'accouchement, qui est une expérience dans la féminité, qui peut en tout cas être extraordinaire, amener un vrai positionnement différent, s'autoriser à exprimer ses désirs, ne plus être gênée, avoir moins honte, parce qu'il y a quelque chose d'une... d'un tabou, presque d'un tabou qui peut se lever avec l'arrivée d'un enfant.
Oui, en tout cas, là, ça m'évoque aussi ces couples où la sexualité est réduite au fait d'avoir des enfants. Et puis, une fois que les enfants sont là, qu'est-ce qu'on fait de la sexualité? Est-ce que cette sexualité peut devenir un lieu de rencontre, d'échange, de partage et de plaisir ou pas?
Effectivement, si la sexualité est réduite à la reproduction, de fait, la sexualité s'arrête une fois que cette reproduction est faite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les couples sont soumis à une pression là-dessus qui est assez importante, parce que, il y a 100 ans, le projet de famille, c'était pas vivre de la passion, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même ce que les couples attendent, à la fois ce besoin de sécurité, mais aussi ce besoin de passion. Donc ce besoin de désir, ce besoin de vibrer, ce besoin de... Voilà.
Oui, c'est Esther Perel qui dit voilà, les couples entre 18h et 20h, ils veulent de la sécurité, et après 21h, ils veulent de la passion, du romantisme, de la découverte, du voyage. Et comment combiner finalement ces besoins qui sont opposés?
C'est ça, ces besoins qui sont opposés. Donc, c'est quel espace qu'on se donne. Alors, du coup, vous parlez d'Esther Perel. Donc, juste une petite chose qu'elle dit, je trouve vraiment très intéressante par rapport à ça. Elle recommande en fait au couple d'avoir un canal de communication exclusivement dédié aux expressions du désir, du besoin, et pas de ta pensée, s'il te plaît, achète du papier toilette, on n'en a plus. Tu te souviens que tu dois appeler ta mère parce que. Mais voilà, avoir. Alors, maintenant, avec WhatsApp, par exemple, c'est formidable. On peut se créer un groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp du couple amant. Et voilà, avec l'idée de exclusivement s'envoyer des messages sur ce canal-là qui ont à voir avec l'autre et le désir et le besoin. Bah, tiens, j'ai envie de faire ça avec toi. Tiens, je te partage tel article. Alors, mais un article, évidemment, qui parle, qui va nourrir justement ce couple qui désire, ce couple qui peut être dans la passion. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée, enfin, ce qu'elle propose.
Alors là, du coup, vous nous proposez, Christelle, comment la faire vivre le couple conjugal dans le couple parental et dans la famille. Vous parliez tout à l'heure aussi du baby clash. Comment on peut prévenir ces moments finalement qui vont être difficiles pour le couple conjugal?
Je trouve que déjà, pouvoir se parler d'autre chose que du bébé. Mmh. Quand le bébé est couché, vous l'avez dit, hein, vous disiez, ben voilà, on peut se prendre un petit apéro. Hein, donc c'est comment on peut se retrouver, se parler de sa journée. Et ça paraît rien, mais juste déjà se parler de sa journée, même 3 minutes, en fait, c'est énorme. Se donner ce temps-là pour se dire mais je suis quelqu'un d'autre qu'un père et une mère. Et quand je te raconte qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans mon boulot, eh ben, je te parle de l'homme que je suis au travail. Je te parle de la femme que je suis au travail. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, se parler de sa journée, se parler des projets futurs, de l'organisation du prochain week-end qu'on a envie de se faire, des ressentis de chacun, évidemment. Hein, ça me paraît vraiment important. Et là, on continue à transmettre des émotions, en fait, à son partenaire. Donc, c'est vraiment important de se parler d'autre chose, que du bébé. Rétablir aussi, de la complicité en étant aussi quand même dans l'expérience, parce qu'il y a se parler, qui est important, mais il y a aussi faire l'expérience de quelque chose d'autre qu'être en relation avec son enfant. Faire l'expérience ensemble. Donc, c'est faire l'expérience d'aller ensemble à l'opéra, de faire une activité, de faire du sport ensemble. Et je parle des activités parce que j'entends beaucoup de couples qui disent « Ah ben alors, voilà, on s'organise. Quand moi je sors, mon partenaire s'occupe de l'enfant ou des enfants. » Et c'est des couples qui se retrouvent à ne plus se voir. Mmh. Parce que chacun a développé et préservé son espace pour soi.
Donc, ce qui est très bien, important, ouais.
Voilà. Mais ce qui n'est pas suffisant. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention, quoi. Donc effectivement, si on fait que s'alterner, ça devient une garde alternée pour le couple. Mmh. Hein, donc c'est des couples finalement. Alors d'ailleurs, par contre, c'est des couples qui sont bien organisés pour le divorce. Hein, et en général, ça se passe bien. Je fais un peu de provocation, mais enfin, ils ont déjà mis en place une garde alternée. Et ça interroge. Et donc, attention à ça, quoi. Hein. C'est hyper important d'avoir effectivement ces espaces individuels, mais peut-être faire du sport ensemble. Alors, si ça peut pas être dehors, ça peut aussi être à la maison. Hein. Je crois que le confinement nous l'a montré. On peut aussi faire beaucoup de choses
à la maison,
variées et partager aussi des choses en couple comme ça, s'il y a des problèmes d'organisation, de babysitter, de budget, parce que parfois on me dit oui, mais on ne peut pas se payer une babysitter. Bah, c'est comment aussi, dans cet espace-là de la maison, on crée un espace différencié. Et cet espace d'ailleurs différencié dans une activité qu'on fait à la maison, ça met aussi de la différenciation avec les enfants, et c'est important que les enfants sentent qu'il y a l'espace des parents et l'espace des enfants. Ça les aide à bien grandir. C'est un vrai cadeau qui est fait aussi aux enfants.
Oui, comment on va se rendre pleinement disponible en coupant son téléphone, en coupant la télévision, pour pouvoir vraiment être ensemble et se parler.
C'est ça.
Aussi. Et puis faire jouer un jeu de société ou faire autre chose.
Il y a vraiment l'idée aussi de s'accorder du temps pour soi. Hein. Enfin, ça, vous avez exprimé ce besoin-là, Florian, et c'est très juste. Bon, il y a aussi l'idée d'accepter de l'aide, hein, ce qui n'est pas forcément quelque chose non plus d'évident. Hein. On voit bien, il y a des couples pour lesquels c'est très difficile de pouvoir déléguer, de pouvoir confier son enfant. Donc accepter de l'aide, sortir du tu qui tue, hein. C'est-à-dire quand on est dans le tu fais pas ci, tu fais ça, tu... Bon, ça c'est le piège où on rentre dans le couple que j'appelle le couple calculette, hein, voilà, donc on compte les points. Moi je me retrouve comme thérapeute, je compte les points, alors je leur dis vous me payez pour faire la calculette, c'est un peu dommage. Voilà, alors et puis je crois aussi voilà, se dire vraiment arriver de l'enfant sans dire attention, vous allez avoir des problèmes. Par contre, on peut alerter sur le fait que voilà, on va peut-être quelquefois être inquiet, démuni, vulnérable, et laisser aussi de la place à ça avant, à cette fragilité. Je crois que ça prépare aussi le couple, en fait, à ce qu'il va vivre.
Oui, et puis dans la préparation, pouvoir aussi anticiper ou réfléchir ou partager sur la gestion de la fatigue. Voilà, notamment dans les premières semaines, parce qu'évidemment, la fatigue, hein, c'est le premier élément dépressogène individuellement et du couple. Et que aussi, quand on a de l'énergie, bah, c'est plus facile aussi d'être ensemble voilà, et d'être attentif à cette question-là.
Tout à fait. Comme disait Florian, hein, surtout si on est entouré d'amis dont les bébés dorment très bien, voire même mieux que la moyenne, parce que tous les bébés, loin de là, ne font pas leur nuit à deux mois. Mais forcément, ça nourrit aussi comme ça une attente et une image où on ne s'imagine pas quoi, qu'on va être absolument épuisé. Et puis, vous l'avez dit, hein, du coup, ça nourrit l'idée, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Et alors, quand on se sent très dévalorisé aussi en tant que parent, en tant qu'individu, bah, c'est très compliqué de pouvoir être dans le désir de l'autre. Il faut que je puisse, moi, me regarder positivement pour pouvoir accepter aussi d'être aimable. Aimable au sens, voilà, d'être aimé.
En tout cas, vous nous l'avez bien dit, Christelle, hein, dans ce moment voilà, de vulnérabilité qu'est l'accueil d'un enfant, bah, le couple conjugal va s'adapter, va laisser de la place petit à petit au couple parental. Et puis les deux vont coexister, puis trouver un équilibre. Chacun va trouver sa place. En tout cas, c'est un temps voilà, de réorganisation, donc pas de décision hâtive dans ce moment-là. Et puis, il me semble important voilà, de bien dire voilà, que le couple parental, il nourrit aussi le couple conjugal. Dans la famille, il y a des choses qui vont nourrir aussi le couple conjugal. Et puis un couple conjugal qui va bien, c'est un couple parental qui va bien aussi. D'où l'importance voilà, d'être attentif à soi et au couple. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Christelle, si vous deviez voilà, conseiller un livre, une vidéo ou autre.
Alors, il y a un livre que je trouve vraiment remarquable qui s'appelle « Les couples heureux ont leurs secrets », donc de Gottman et Silver. Et c'est un livre qui s'appuie sur beaucoup de recherches et d'études et qui apporte des conseils très pratiques sur le couple. C'est vraiment très intéressant. Et il y a un podcast absolument remarquable, « Les artichauts ». L'épisode 1, donc sur les mécanismes du désir avec Esther Perel, il est vraiment très, très intéressant. Puis il y a un autre ouvrage aussi qui est intéressant, c'est « Le couple à l'épreuve de l'enfant », donc là qui est sur... plus spécifiquement sur cette question-là, de Bernard Jeberovitch et de Colette Barou. Voilà ce que j'aurais envie de conseiller aux couples qui nous écoutent.
Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup, Amélie et Florian, d'être venus partager avec nous voilà, les difficultés que vous rencontrez, toutes les questions que vous vous posez depuis la naissance de votre fille. Merci beaucoup, Christelle Gollner. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute familiale et de couple à Paris, dans le 8e arrondissement. Un grand merci à tous les trois.
Merci. Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.